Thomas Michaud, bonjour. Vous avez pris vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de la Tour du Pin le 19 octobre 2015. Auparavant, vous étiez sous-préfet, directeur de cabinet du Val-de-Marne. Diplômé en droit, vous avez commencé votre carrière professionnelle comme juge des enfants. Donc la première question qui me vient à l'idée, c'est quel est votre parcours professionnel ? Pourquoi avoir choisi de devenir sous-préfet après avoir commencé une carrière dans la magistrature ?
Bonjour à tous. D'abord, première partie de la réponse, hein, c'est que j'ai une vocation au service public. Servir mes concitoyens, c'est ce qui me motive le plus. Et je l'ai fait en étant magistrat pendant quelques années. Et puis, étant magistrat, j'ai découvert qu'il y avait autour des magistrats d'autres intervenants sociaux qui agissaient sur la société, qui accompagnaient la société dans son évolution, et notamment les gens du corps préfectoral qui sont au cœur du système de l'État, puisqu'ils représentent l'État sur un territoire et qu'ils sont là pour mettre en place les politiques publiques décidées par le gouvernement, mais aussi pour représenter l'État au-delà des gouvernements sur un territoire. De l'extérieur, ce métier m'a semblé passionnant, aussi passionnant que celui de magistrat, mais différent, parce que c'est une grille de lecture du monde qui est différente. Et j'ai eu envie d'essayer, comme on dit, et puis il se trouve qu'il y a des parcelles entre les métiers, que j'ai eu la chance de pouvoir passer dans le corps préfectoral, où je reste encore pour l'instant le temps de me décider pour quel type de service je veux vraiment m'engager durablement.
Alors quelles sont les particularités justement d'un sous-préfet ? Quelles sont vos missions principales ?
Alors, il y a deux missions principales pour le sous-préfet. La première, c'est de représenter l'État, c'est-à-dire de représenter la France et les Français, tous les Français, toute la France dans un territoire donné, en l'occurrence celui de la Tour du Pin. Ça veut dire aussi représenter les Français d'avant, ceux d'hier, et c'est représenter les Français de demain. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. L'État dure, l'État n'est pas soumis aux aléas, qu'il soit politique, qu'il soit démographique, qu'il soit historique. L'État, c'est la permanence, et le sous-préfet, qui représente le préfet dans le département, incarne en fait l'État dans son arrondissement, c'est-à-dire dans le territoire sur lequel il a une compétence. Deuxième compétence, c'est de mettre en place les politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement, c'est-à-dire mettre en place les lois, mettre en place tout ce que le gouvernement décide. C'est le préfet qui le met en œuvre dans le département, et sur le plus petit territoire qui est l'arrondissement, c'est le sous-préfet qui le met en œuvre sous l'autorité du préfet.
Alors vous avez pris vos fonctions il y a maintenant 20 mois. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant sur ce territoire ?
La première impression, c'est d'abord que c'est un territoire qui est extrêmement riche d'activités, riche de dynamisme, et notamment sur le plan économique. Alors dans la période que traverse notre pays actuellement, c'est pas forcément donné à tous les sous-préfets de venir dans un territoire qui est très vivant sur le plan économique, où il y a une activité économique qui est soutenue, des entreprises qui travaillent, des belles entreprises qui créent de l'emploi et qui créent du coup une richesse qui permet ensuite au reste de la société fonctionner. Parce que c'est bien parce que les entreprises fonctionnent et qu'elles créent une richesse que le reste de la société peut fonctionner. C'est pas l'État qui crée l'argent. Et pourtant, l'État a besoin d'argent pour faire fonctionner les services publics. C'est bien les entreprises qui créent de la richesse, qui permettent ensuite à l'État de répartir cette richesse et de l'utiliser pour des services au public. Donc la première chose qui m'a frappé, c'est que sur ce territoire, il se passe beaucoup de choses sur le plan économique. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent, qui sont très dynamiques, beaucoup de gens qui inventent, qui prennent les risques, qui s'engagent, de chefs d'entreprise qui lancent des projets. Et tout ça, c'est, je crois, très bon pour ce territoire, mais au-delà, c'est très bon pour la France, c'est un très bon modèle.
Alors justement, est-ce que vous avez des priorités pour ce territoire-là ? On va être dans une période où effectivement il va y avoir toutes les fusions de communautés de communes qui relèvent aussi du préfet. Est-ce que vous, sur ce territoire, vous voyez des choses qui sont importantes à mettre en œuvre ?
Oui, alors moi j'ai trois priorités que j'ai définies en découvrant ce territoire. Et la première, alors je reviens juste sur ce que je disais, c'est d'accompagner les entreprises qui font du développement économique, parce que l'État peut être un accélérateur ou peut favoriser la vie économique, et je crois que c'est son rôle aujourd'hui en tout cas que d'aider les entreprises à fonctionner, puisque c'est ce qui permet de créer de l'emploi. Et ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Mais il y a en ce moment une réforme qui a été décidée par le gouvernement, qui est une réforme qui réorganise l'organisation territoriale et qui accompagne les communes à s'organiser autrement, notamment à s'organiser dans des intercommunalités plus importantes. C'est ce qu'on appelle la loi NOTRe qui est en train d'être mise en œuvre, et c'est un des sujets évidemment qui m'a beaucoup occupé et qui m'occupe encore beaucoup depuis que je suis arrivé. Il s'agit d'aider les communes qui le le souhaitent, à s'organiser de manière plus importante, c'est-à-dire associer plus de communes les unes avec les autres pour qu'elles partagent un certain nombre de services à la population et qu'en s'associant à plus grande échelle, elles gagnent de la puissance économique, elles gagnent aussi des économies d'échelle, ce qui permet que l'ensemble de la structure coûte moins cher à la collectivité. Donc qu'elle soit plus puissante et qu'elle soit moins coûteuse. Et ça, c'est en train de se faire sur le territoire, dans le cadre d'un schéma départemental que le préfet a piloté, a proposé aux élus qui l'ont validé. Et du coup, il faut aider, accompagner les territoires à s'engager dans cette démarche et puis à la mener jusqu'à son terme. C'est pas simple pour des syndicats de communes qui existent déjà, pour des communautés de communes qui existent déjà, de s'associer avec d'autres, de savoir quelles sont les compétences qu'elles vont prendre et qu'elles vont mettre en place, de savoir comment les mettre en place. C'est une réorganisation qui est un peu complexe et qui nécessite d'être accompagnée. C'est le rôle de l'État d'accompagner, puisque c'est une des politiques publiques qui a été décidée ces dernières années et qui doit être mise en œuvre.
Alors, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué sur notre territoire ? On s'aperçoit qu'il y a un petit peu des distensions entre certains.
Il n'y a pas vraiment de distension, il y a simplement à faire émerger un projet dans lequel suffisamment de gens se retrouvent pour que ce projet puisse être viable et qu'il puisse y avoir une dynamique positive. Il y a des endroits du territoire où ça se passe sans aucune difficulté, de manière très naturelle. Par exemple, les trois établissements intercommunaux du nord de l'arrondissement sont en train de fusionner sans aucune difficulté particulière. Ils se mettent d'accord, ils sont d'accord sur tout ensemble depuis le départ. Et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils se mettent autour d'une table, ils en discutent et puis ils trouvent une solution qui convient à tout le monde. Il y a des endroits où le territoire n'évolue pas, il y a ce qu'on appelle la CAPI, qui est la communauté des portes de l'Isère, qui ne va pas évoluer, elle est déjà très forte, très puissante, avec 100 000 habitants, il n'y avait pas de logique territoriale à ce qu'elle s'accroisse encore, donc celle-ci n'évolue pas particulièrement, mais pas parce qu'elle ne le veut pas, parce qu'il n'y a pas de nécessité ni de réalité territoriale qui l'imposerait. Et puis il y a le territoire des Vals du Dauphiné, qui est un territoire où la fusion est en effet, obtient pas aujourd'hui une adhésion complète, mais moi je fais confiance aux élus de ce territoire qui ont bien conscience que ce territoire ne fonctionnera que si suffisamment de gens y adhèrent. Je leur fais confiance donc pour créer les conditions dans lesquelles tous ou le plus possible adhéreront de manière à ce qu'ensuite la vie de ce territoire qui est particulier puisqu'il est multipolaire, il y a plusieurs pôles, il y a la Tour du Pin, il y a les Abrets et puis il y a le pôle de autour de Pont-de-Beauvaisin. Si chacun reconnaît à ce territoire cette spécificité, il pourra vivre et je sais que les élus travaillent beaucoup en ce moment à discuter, à échanger entre eux pour savoir dans quelles conditions ils vont pouvoir construire un territoire dans lequel chacun se retrouve et du coup qui vivra.
Parce que l'échéance, c'est 2017, 1er janvier 2017.
L'échéance, c'est l'échéance institutionnelle. Ça veut dire qu'il faut que les règles du jeu soient définies entre les communes qui vont travailler ensemble au 1er janvier 2017, pour qu'ensuite le travail de terrain puisse se faire concrètement.
Parce que ce sont des territoires qui sont un peu compliqués, dans le sens où, effectivement, nous avons beaucoup de communes rurales, avec quelques communes un petit peu moins rurales. Il faut arriver à allier tout ça. C'est un petit peu, c'était peut-être plus facile sur un territoire comme la CAPI.
En fait, l'intercommunalité telle qu'elle est prévue, c'est le fait de partager certaines compétences qui sont définies par la loi et que les nouveaux établissements intercommunaux doivent absolument assumer, prendre en charge et partager, et d'autres qui sont des options qu'ils peuvent choisir d'assumer ou pas. C'est donc d'abord et avant tout des compétences techniques, des services à la population qui vont être partagés. Par exemple l'assainissement, par exemple les ordures ménagères, des choses comme ça. Et alors c'est plus ou moins facile de travailler sur ces sujets, c'est d'autant plus facile qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'on se sent du même territoire. Et il y a des territoires qui sont multiples. Le territoire de Val-de-Dauphiné, c'est un territoire multiple. Personne ne peut dire qu'il est unique, qu'il est univoque. Et du coup, évidemment, c'est des gens qui avaient chacun leur équilibre et à qui on demande de construire un nouvel équilibre où chacun se retrouve. Bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Moi, j'ai confiance dans les élus de ce territoire pour réussir à mener à bien ce projet. Il y a encore du temps pour que les bases minimales requises pour que ça fonctionne soient réunies. Et les gens y travaillent, donc je suis serein. Et puis, ce n'est que partager des compétences techniques au service d'une population. Je crois que ça n'engage pas l'identité culturelle des gens, ça n'engage pas non plus, ça ne remet pas en question non plus ce qui existe déjà et qui a été construit par les élus précédemment installés. L'idée, c'est de faire avancer le système un peu plus loin. Et ça, je crois qu'avec de la bonne volonté, on peut toujours y arriver. Avec de la bonne volonté et puis en respectant une réalité du territoire.
C'est ça qui est aussi important. Alors pour clore cette première partie, quels sont vos rapports justement avec les élus ? Est-ce que vous arrivez à les conseiller ? Comment se passent vos rapports avec eux ?
Alors, la démocratie française est construite sur différents échelons de démocratie. Il y a le premier échelon qui est celui de la commune, hein, le maire, qui est le conseil municipal et son maire, qui sont élus par suffrage universel direct, donc qui sont désignés par les Français. Et il y a au-dessus, si j'ose dire, en termes de géographie en tout cas, les délégués cantonaux, hein, qui sont les élus du conseil départemental, qui exercent d'autres compétences que celles des maires, hein, sur un territoire plus grand qu'est le canton. Au-dessus, si j'ose dire encore une fois, quand on parle de géographie, on a les conseillers régionaux qui sont aussi élus au suffrage universel direct sur des listes, en tout cas régionales, qui exercent aussi certaines compétences qui ne sont pas exercées par les communes ou par le conseil départemental. Donc chacun de ces niveaux a un niveau de compétence à exercer. Le sous-préfet, lui, il représente encore une fois l'État dans sa continuité, quelle que soit la couleur politique, quel que soit l'engagement, quel que soit les lieux du territoire. Il est là pour mettre en œuvre les réformes qui sont décidées par le gouvernement et par nos élus, nos grands élus de l'Assemblée nationale, les députés et les sénateurs. Donc un sous-préfet, ça travaille obligatoirement et nécessairement avec les élus du territoire qui ont des compétences qui ne sont pas celles du sous-préfet, sachant que toutes les compétences doivent s'imbriquer de manière cohérente les unes avec les autres et doivent se respecter les unes les autres. Le travail du sous-préfet, c'est un petit peu d'accompagner ce mouvement-là de manière à ce que chacun puisse exercer sa compétence et que chacun exerce sa compétence et que tout ça se fasse de manière complémentaire pour que l'ensemble du système fonctionne de la manière la plus fluide possible. Moi, je rencontre sur ce territoire des élus, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur couleur politique, hein, qui sont très engagés dans leurs fonctions. Je découvre l'engagement des élus, le temps et l'énergie qu'ils dépensent au service de leurs concitoyens. Et ça, je trouve que c'est trop méconnu, ou c'est aujourd'hui trop... c'est devenu un acquis, et les gens ne se rendent plus compte de l'engagement des élus à leur bénéfice. Et c'est un petit peu dommage, parce que vraiment, les élus font un travail remarquable. Ils y passent du temps et de l'énergie, de manière à faire en sorte que les territoires fonctionnent le mieux possible. Moi, mon travail de sous-préfet, c'est de les aider, c'est de les accompagner. Alors, parfois, sur des questions très techniques que se posent notamment, en effet, les petites communes rurales qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des agents en interne qui ont des compétences, mais c'est aussi de valoriser ce que font les élus en me déplaçant pour des inaugurations, par exemple. Et puis, c'est d'essayer de résoudre leurs difficultés lorsqu'ils en rencontrent et que l'État peut être une partie de la solution. Mon travail, c'est de les aider à trouver des solutions.
Est-ce qu'il vous arrive d'être l'arbitre, des fois, quand un conflit naît ?
Non, ça, c'est pas du tout le travail du sous-préfet. Les élus savent trouver entre eux les arbitres et les points d'équilibre. Hein. Sauf s'il y a une compétence spécifique qui revient à l'État, il n'appartient pas à l'État d'arbitrer entre les élus. Il y a un principe qui est inscrit dans l'article 72 de la Constitution, qui est un article très important, et un article qui prévoit le principe de libre administration des collectivités. C'est-à-dire qu'une commune, c'est une collectivité, un conseil départemental, c'est une collectivité, un conseil régional, c'est une collectivité. Le principe qui est gravé dans la Constitution, c'est que la liberté d'administration. Ce sont ces élus-là, désignés par le peuple, qui s'auto-administrent et qui organisent leur collectivité. La sanction, c'est celle du scrutin. Si le citoyen n'est pas satisfait de la manière dont ils se sont organisés et dont ils ont géré les affaires, il ne revotera plus pour eux. Et il n'appartient absolument pas au sous-préfet d'aucune manière de s'immiscer dans ce fonctionnement-là. Il travaille à un autre niveau, d'une autre manière et sur d'autres bases constitutionnelles. Le sous-préfet, c'est le représentant du pouvoir exécutif dans l'arrondissement, en l'occurrence. Et on a en France un autre principe qui est celui de la séparation des pouvoirs et des niveaux de responsabilité. Donc les choses sont complémentaires et le sous-préfet n'a en aucun cas à arbitrer entre les élus qui sont libres de l'administration de leur collectivité.
Eh bien, je vous remercie.
Thank you.
C'était Avishai Cohen Trio, le titre Remembering, et c'était le choix musical de Thomas Michaud, sous-préfet de l'arrondissement de la Tour du Pin, que nous accueillons aujourd'hui dans notre magazine Quartier Libre sur Couleur FM. Alors maintenant, on va parler du service civique. On a avec nous trois jeunes de la mission locale Nord-Isère qui sont actuellement en service civique. Alors tout d'abord, on va peut-être rappeler ce qu'est le service civique. Monsieur le sous-préfet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le service civique ?
Oui, bien sûr. C'était d'abord un dispositif qui a été créé parce que de plus en plus de jeunes avaient l'envie de s'engager au service de leurs concitoyens, d'une manière ou d'une autre. De plus en plus de jeunes avaient un souci de travailler pour l'intérêt général et que cette volonté de s'engager au service de l'autre, c'était quelque chose que l'État devait valoriser, devait prendre en compte, devait organiser. Et du coup, l'État a organisé un dispositif qui permet à ces jeunes qui veulent s'engager, notamment ceux qui sont sortis du système scolaire ou qui ont fini leurs études mais qui n'ont pas envie ou qui ne trouvent pas de travail immédiatement, mais qui ont envie de servir la collectivité. Donc ce dispositif leur permet de s'engager auprès d'un organisme à but non lucratif, personne morale de droit public, association, des choses comme ça, en échange d'une indemnité qui est de 500 et quelques euros par mois, donc une indemnité qui est assez conséquente, hein, à accomplir une tâche d'intérêt général au bénéfice de cette collectivité qu'ils servent et au bénéfice au-delà de l'ensemble de nos concitoyens. C'est un engagement volontaire qui peut durer de 6 à 12 mois. On peut dire que ça correspond un petit peu au service national qui existait avant, même si celui-là était militaire, mais là c'est le service de la collectivité. Donc moi je souhaitais être là aujourd'hui avec vous pour valoriser ces jeunes qui font ce choix de s'engager au bénéfice des autres. C'est une chose très importante, je trouve, et ça permet d'ajouter au service public ou d'ajouter au service associatif de nouvelles richesses et de nouveaux moyens qu'ils n'avaient pas forcément auparavant.
Est-ce qu'on sait combien de jeunes ont bénéficié du service civique depuis qu'il est en place ?
Alors pour l'année 2016, en tout cas, l'objectif pour l'Isère est de pouvoir obtenir 366 engagements de service civique. Pour mémoire, en 2014, c'est 123 jeunes qui sont engagés dans le service civique, et en 2015, 154 pour l'ensemble du département de l'Isère. Hein. Donc ce que le gouvernement demande, hein, c'est que ce dispositif s'amplifie, et donc le préfet, les sous-préfets, les services de l'État qui sont concernés sont en train de mettre en place des moyens de recruter ce nombre de jeunes qui est prévu afin de développer ce système, parce qu'on en constate l'utilité et l'intérêt pour tous, et donc le gouvernement souhaite que ce soit développé encore.
Alors quelles sont les conditions pour pouvoir prendre un service civique dans une association ?
Il n'y a pas de conditions extrêmement fermes, si ce n'est une condition d'âge, hein, c'est entre 16 et 25 ans qu'on peut prétendre au service civique. Ensuite, il faut faire travailler le jeune qui sera en service civique sur des tâches qui ne pourraient pas être prises en main par les salariés ou du service, la collectivité, parce que les mairies peuvent prendre des services civiques par exemple, hein, ou une association. Ils ne doivent pas, les services civiques, travailler sur des tâches administratives ou logistiques qui sont indispensables au fonctionnement courant de la structure qui les accueille. Sinon, ça viendrait en concurrence en fait d'emplois salariés, ce qui n'est pas l'objectif. Ils ne doivent pas non plus avoir une activité relevant d'une profession réglementée. Ils ne doivent pas non plus prendre en compte une mission qui aurait été précédemment assurée par un salarié ou par un agent public. Et voilà, quelques contraintes. Ça veut dire que vraiment, l'idée, c'est d'utiliser l'énergie de ces jeunes qui veulent rendre service pour ajouter des services qui n'existaient pas, et non pas pour remplacer des services qui existaient, et pour ajouter une qualité de service qui ne vienne pas faire concurrence aux emplois salariés, l'objectif étant évidemment pas de réduire le nombre d'emplois qui peut être proposé, mais d'ajouter quelque chose qui n'aurait pas été fait autrement.
Il faut un agrément, quelque chose, pour pouvoir accueillir des jeunes ?
Non, par contre, il y a un dossier qui va être instruit hein, par les services de l'État qui sont en charge d'accorder ou pas le statut de service civique. Hein. Donc il y a un échange qui se fait avec les services de l'État qui vont accepter ou pas, selon la nature de l'emploi, selon la nature de l'activité de l'association, etc. etc. L'emploi pourrait être intégré, comment le service civique pourrait être intégré.
Alors justement, on a avec nous trois jeunes qui sont en service civique. Alors Raïzani, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi le service civique et qu'est-ce que vous faites et où ?
Alors bonjour à tous. Alors je suis à la mission locale de Villefontaine. Et avant de faire le service civique, en fait, j'ai fait 3 ans de service de proximité et vie locale. C'est dans le domaine du social. Et donc, je suis partie de Marseille pour venir habiter à Lyon, à Villefontaine, donc. Et donc, je suis arrivée trop en retard pour les inscriptions pour continuer mes études. Donc, j'ai voulu faire un service civique. Je me suis inscrite au service civique et on m'a appelé pour aller passer un entretien. On m'a accepté, donc voilà.
Alors, quelles sont les expériences de ce service civique? Ça vous a apporté quoi? Les pour, les contre? Vous finissez quand? Vous avez commencé quand?
Alors, on a commencé au mois de janvier, on finit en octobre.
Alors, quelle était votre mission au sein de la mission locale?
Alors, mes missions, c'est de recevoir les jeunes à ce rendez-vous ou pas, pour les accompagner sur leur démarche via Internet. Si besoin, je leur propose aussi un suivi numérique pour assurer leur progression et leur prise d'autonomie.
Alors, qu'est-ce que vous aura apporté ce service civique?
Ben moi, ce qui m'a apporté, c'est la rencontre avec les personnes, puisque moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du social et voulant continuer dans ce domaine. Donc, je me suis dit, c'est toujours l'échange, continuer dans l'échange avec les personnes. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez des idées à l'issue de votre service civique sur ce que vous allez faire?
Je voudrais m'inscrire à une formation de moniteur éducateur.
Ludovic, vous êtes aussi en service civique à la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre fonction et les raisons de cet engagement?
Alors, bonjour. Alors moi, je suis un jeune mission locale à la base et c'est ma conseillère en fait qui m'a parlé de cette mission service civique. Vu que je suis un peu dans l'informatique, enfin, du côté personnel, quoi, ça m'a plu. Du coup, j'ai eu l'entretien, j'ai passé l'entretien et puis voilà, j'ai été pris sur la mission locale de Bourgoin-Jallieu.
Et qu'est-ce que vous faites?
Alors, sur la mission locale de Bourgoin-Jallieu, il y a deux ateliers en fait, animés par les conseillères. Et en fait, moi, je suis enfin en bonus, on va dire, pour cet atelier. Du coup, j'accompagne les jeunes sur leur recherche d'emploi et aussi je repère les jeunes en fait qui sont mal à l'aise en fait avec l'outil numérique. Pour du coup leur apporter une aide personnalisée pour les prendre par exemple en rendez-vous personnel. Et voilà, du coup, ça nous arrive aussi de participer aux événementiels de la mission locale, par exemple le mondial des métiers, ce genre de choses, quoi. Mais ça concerne toujours l'emploi. Et ouais, ça nous arrive aussi de conseiller les jeunes en fait sur l'identité numérique, par exemple leur mot de passe, par exemple ne jamais mettre le même mot de passe. Pour leur adresse mail, leur Facebook, voilà.
Et pourquoi avoir choisi de vous engager dans un service civique plutôt qu'un autre type de contrat?
Alors moi, à la base, j'avais fait une formation dans le graphisme, voilà. Et je voulais en fait faire de la communication visuelle. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé d'employeur. C'était un bac pro communication visuelle, j'ai pas trouvé d'employeur. Et justement, après, ma conseillère m'a parlé de cette mission service civique, donc il se rapprochait à peu près de ce que j'aimais faire, quoi.
Et après, alors, ce service civique?
Alors après service civique, j'ai pas tellement d'idées. J'aimerais bien m'inscrire en école de police, l'école des cadets. Mais à part ça, non, j'ai pas vraiment d'idées qui étaient précises, quoi.
Adrien, même question.
Bonjour. Alors, donc moi, j'ai un petit peu un peu le même parcours que Ludovic concernant ce recrutement en service civique, c'est-à-dire que je suis jeune de mission locale. J'ai à deux reprises été orienté d'abord sur un bilan de compétences, puis sur un bac pro accueil relations clients usagers. Donc c'est notamment la mission locale qui a joué un grand rôle dans mon orientation. Et donc suite à ma réinscription après mon bac pro accueil, donc on m'a proposé ce service civique qui correspondait finalement surtout à mon profil, plus qu'à un souhait émis de ma part, et qui correspondait aussi à la mission que j'accomplissais au sein de La Poste, puisque j'ai fait ce bac pro en alternance à La Poste de Villefontaine, puisque j'accompagnais les clients sur les automates. Donc ça ressemblait un petit peu à ce qu'on fait maintenant avec les jeunes qui sont en difficulté sur Internet pour leurs inscriptions.
Alors quelle est la suite de ce service civique?
Alors moi, je n'ai pas de suite prévue non plus. C'est vrai que j'aimerais, dans l'idéal, rester dans l'accueil, finalement, l'accueil physique, l'accueil téléphonique, puisque c'était le résultat de mon bilan de compétences, quoi. Donc c'était vraiment ce qui me convenait le plus. Je reste sur cette position, je pense que c'est ce qui me convient. Mais voilà, je découvre actuellement en service civique que vraiment accompagner, être là pour les gens, pour les aider à se développer, à développer des compétences qu'ils n'avaient pas forcément, les conseillers, quoi. C'est vraiment cette fonction de conseil que j'aime beaucoup dans ce service civique et que idéalement j'aimerais pouvoir garder dans un futur métier.
Alors, juste, chacun va pouvoir me répondre vite fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté, service civique? Quels seraient les plus et les moins que vous auriez à dire? Justement, vous avez un représentant de l'État qui ont mis en place ce service civique. Quelles seraient les petites choses à peut-être à modifier, s'il y avait des choses à modifier? Raïsani?
Je ne suis pas sûr de pouvoir enfin modifier les choses.
Hein, mais non, mais il prendra note, Raïsani.
Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on travaille pendant 6 à 9 mois et qu'après, on n'accumule pas de chômage, on n'a rien alors qu'on a été rémunéré pendant notre service civique et qu'après, on ne touche rien du tout. Donc c'est ce que je trouve dommage. Après, ce que moi, ça m'a apporté, c'est le lien social. En fait, rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas, les apporter quelque chose comme ils m'apportent aussi quelque chose. Donc voilà.
Ludovic ?
Alors moi, c'est un peu pareil que Raisani. Du coup, au niveau social, ça m'a beaucoup apporté. Rencontrer du monde, ouais, aider les jeunes surtout. Et ouais, pour un point négatif, je dirais à peu près la même chose. On pense à peu près la même chose par rapport au point négatif.
Ludovic ?
Adrien,
pardon.
Donc je dirais que je suis un peu sur le même scepticisme par rapport au point négatif. Il y a aussi pas forcément pour nous, puisqu'on travaille 24 heures par semaine. Il faut savoir qu'en service civique, quelle que soit notre durée de travail, qui peut aller jusqu'à 35 heures, on a la même rémunération. On a pu rencontrer quelqu'un récemment qui fait un service civique avec les CRS, donc à hauteur de Grenoble, et lui, il fait 35 heures par semaine, il se déplace énormément, il est sur le terrain tant qu'il peut, parce que ça reste un peu compliqué vu qu'il est en service civique, et lui, il est payé comme nous, et c'est vrai que dans sa situation, ça ne le dérange pas tant que ça, mais ça peut, je me dis que ça pourrait être problématique pour quelqu'un qui voudrait faire un service civique, mais en raison des coupures, des allocations, le fait qu'on ne soit pas éligible à la prime d'activité non plus, pourrait mettre en difficulté quelqu'un qui voudrait faire un service civique mais vivrait déjà tout seul chez lui et donc aurait vraiment trop de frais à sa charge et donc pas de possibilité de rester en service civique sur une durée aussi longue.
Avant de faire réagir Monsieur Michaud sur les propos de nos trois jeunes, une pause musicale proposée par Adrien, qui a son propre groupe, This Fake Sky, le titre Hibernation.
De me chercher, je crois bien que je me suis perdu dans les tréfonds de mon cœur et des douleurs que je pensais vaincues. Inondé de larmes, avec pour seules armes mon cerveau à peine fonctionnel et le soutien de mes proches, même dans mes délires fictionnels. Trop de sujets à aborder, j'ai failli tout laisser déborder quand j'ai fini par comprendre que mon conte de fées avait été molesté. Mais ça pèse lourd et j'ai comme un besoin de me délester. Alors je pose des paroles en faisant de mon mieux pour éviter d'agiter le couteau dans la plaie qui s'est creusé quand j'ai perdu cet amour éperdu, si l'essieu mais sincère qui a fini pendu sur une place publique sur laquelle on arrive pour éviter d'en pleurer encore un peu plus de nausées ravalées dans cette guerre de tranchées. Je vous jure qu'il y a des jours comme ça où je m'en serais bien passé. Vos histoires de cul, vos embrouilles, je vous promets j'en ai assez. J'étais dans ma misère et même la misère se fait malmener. Il me faudrait une muselière si vous voulez plus m'entendre marmonner. Je me suis soudain découvert une certaine facilité pour l'énervement et je suis à peine capable de me calmer. Ça frôle l'enivrement. Chaque pauvre petite goutte qui tombe résonne comme une explosion dans cette foutue carcasse qui à force s'encrasse assez sévèrement. De la marche à l'approche religieuse et jusqu'au hurlement, j'ai chassé au fond de moi des douleurs qui me poussent au confinement. Ce besoin incessant, oppressant d'une bonne hibernation, simplement retrouver les couleurs du malheur d'un cœur quasi mourant. En affrontant des mensonges, des tricheries, des tromperies, ne pouvant qu'observer mes conscients que je pourrais être le prochain, essayant d'être là pour ceux qui souffrent mais qui me sourient, oubliant trop souvent à quoi le pansement sur ma plaie se tient. Des rêves auxquels me raccrocher, des amis à qui je peux parler. Mais la plaie saigne encore et j'essaye de cicatriser. Je pensais pas que la solitude pourrait autant me dévorer. Alors je fais de mon mieux pour tenir debout. Paraîtrait même que je tiens le bon bout. J'arrêterai même de me morfondre si on me tient par la main, même seulement une seconde. juste la chaleur d'une main, putain. J'arpente les rues en chantant, je crois bien que je deviens taré. Mon casque installé sur les oreilles, j'arrive même plus à être désolé. Quasiment plus d'oseille et pourtant, je pense bientôt plus qu'à me recaser. Comme si j'avais toujours été seul, comme si je venais d'arriver. Mais que me détestent ceux qui sont voués à me détester. Y'a bien assez de haine pour tout le monde à la ronde, vous voyez. Apprenez déjà à vous côtoyer sans vous cracher autant dessus. Et je reviendrai me faire une place quand il y aura moins de faux cul. C'est pas comme si je voulais vraiment dire ça, mais je vous assure que j'en ai jusque là. J'ai beau écrire des guerres, ça m'aide pas à trouver cette paix intérieure dont on m'a tant parlé. J'avais pas pris cette place pour te faire déprimer. J'ai vraiment du mal à m'expliquer comment on peut vivre autant d'années sans songer un jour à abandonner.
Alors je vais faire réagir Monsieur Michaud. Le service civique, bon, ça a l'air d'être une merveilleuse expérience, puisqu'ils ont tous pu faire des choses qui les intéressaient et qui les ont ouverts vers le monde. Ce que je trouve moi très intéressant dans ce genre de service civique, c'est que ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes sur des problématiques de jeunes. Ils pourraient d'ailleurs faire exactement la même chose sur les personnes âgées ou moins âgées qui sont vraiment en difficulté avec tous les nouveaux les réseaux sociaux, Internet, puisque maintenant il y a plein de déclarations qui sont obligatoires par Internet et certains sont complètement démunis. Donc on pourrait avoir aussi des jeunes qui partent dans ce genre de réseau. Alors qu'est-ce que vous auriez répondre à nos jeunes à leurs entre guillemets difficultés, puisque certains vont au sortir de ce service civique n'auront pas trop de solutions quoi.
Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Ça pourrait et ça se fait d'ailleurs pour les personnes âgées aussi. Nous à la sous-préfecture par exemple, alors c'est pas les personnes âgées, mais à la sous-préfecture on a aussi des services civiques qui font de l'accueil du public qui vient en sous-préfecture et qui a parfois besoin d'être accompagné parce qu'ils maîtrisent pas suffisamment la langue ou parce que les démarches administratives sont complexes. Il y a des maisons d'accueil au public sur le territoire qui ont des points d'accès internet et aussi des jeunes services civiques qui vont accompagner les gens qui font leur démarche sur Internet, et notamment les personnes âgées ou moins âgées d'ailleurs, mais celles qui en tout cas ne maîtrisent pas l'outil Internet. Donc c'est des choses qui existent. Moi j'en ai vu qui travaillaient aussi dans les hôpitaux hein, pour faire l'accueil des gens dans les hôpitaux. Donc ça existe, il y a beaucoup de registres dans lesquels ça existe déjà, et on peut toujours inventer de nouveaux systèmes. Tant que c'est au service des autres et que ce n'est pas en concurrence d'un emploi salarié, il peut y avoir une possibilité de service civique. Donc il faut savoir faire preuve d'imagination. Pourquoi est-ce que... Parce que ce que j'ai entendu, c'est que l'inquiétude ou la gêne par rapport au service civique, c'était l'absence de perspectives financières, et notamment d'indemnisation chômage. Mais parce que le principe du service civique, c'est que c'est un service, c'est pas un emploi. Ça veut dire que lorsqu'on est en service civique, et c'est ce qui permet aux associations ou aux personnes de créer des postes de service civique, on n'est pas payé par un salaire, on est indemnisé du temps qu'on passe, et cette indemnisation, elle ne comprend pas notamment une partie des charges sociales que l'employeur, lui, payerait s'il avait un salarié, et notamment ces charges sociales qui sont les cotisations au régime chômage. Et ce qui fait que comme c'est moins cher pour l'entrepreneur, il peut y avoir des services civiques aussi dans les entreprises, mais comme c'est moins cher pour la structure qui porte l'emploi, association, structure publique, elle peut du coup embaucher des gens qui sont pleins d'énergie et qui ont envie de rendre service sur ces emplois spécifiques qui sont vraiment des services et de l'accompagnement en plus et pas à la place de l'emploi salarié. C'est bien pour ça que cette nuance est faite. Mais pour autant, elles ne pourraient pas, ces structures, embaucher quelqu'un au tarif d'un emploi avec les charges sociales que ça comporte sur ce type de poste. Donc c'est parce que c'est la rencontre entre une envie de rendre service et une difficulté à ce moment-là pour un jeune d'avoir un autre projet, que ce soit de l'emploi ou de la formation, et un besoin pour améliorer un dispositif sans pour autant que la structure ait suffisamment d'argent pour payer un salarié pour le faire, qui permet le service civique. Donc en effet, c'est un des inconvénients du système, mais encore une fois, lorsqu'on s'y engage, on sait que c'est un service civique et que c'est pas un emploi. Alors après, voilà, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'un emploi ? C'est pas du même ordre, c'est pas le même sens que la société lui donne, c'est pas le même sens que l'utilisateur, la structure qui accueille donne, c'est pas non plus en principe le même sens que le jeune qui s'engage donne à cette activité.
Et puis c'est une belle ligne sur votre CV quand même, un service civique, je pense que
c'est une belle expérience, ils l'ont dit tous les trois, c'est une expérience qui est utile aussi. Alors c'est pas parce que c'est utile que ça ne doit pas être rémunéré, hein, mais la rémunération, elle est aussi dans le sens qu'on trouve à ce qu'on fait, elle est aussi dans le sens que ça peut prendre pour la collectivité, et tous les trois l'ont dit, hein, ça leur a apporté beaucoup humainement, et ce que ça leur a apporté humainement, ça va être valorisé, ça sera valorisable à un moment ou à un autre à titre professionnel. Il y a quand même aussi, alors c'est peut-être pas le cas là sur ces emplois-là, hein, mais un certain nombre de jeunes qui, par le biais, par le prisme du service civique, vont avoir un accès facilité à l'emploi. C'est des choses qui sont démontrées.
Ouais. Oui, parce qu'après, nous, on peut les repérer et puis les intégrer dans nos équipes.
C'est des choses qui arrivent.
Alors, on va terminer avec le dernier volet, c'était la garantie jeune, donc qui est mise en place, notamment, on parle encore ici de mission locale du Nord-Isère à partir du mois de septembre 2016. Alors là aussi, elle s'adresse aux 16-25 ans, révolus, mais cette fois-ci, ce sont des jeunes qui sont sans emploi, ni études, ni formation, et qui sont en grande précarité. Alors, pourquoi aussi ce dispositif ?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif, tout d'abord, qui s'adresse à des jeunes qui sont sans emploi, sans études et sans formation. Donc, qui sont les jeunes les plus éloignés de l'emploi, ceux qui sont en difficulté pour avoir accès à l'emploi et qu'il faut donc aider d'autant plus qu'ils sont loin de l'emploi, à se rapprocher de l'emploi. Ce dispositif garantie jeune, ce n'est pas un droit. C'est un peu comme pour le service civique, hein. C'est pas un droit au chômage, c'est pas un droit à une allocation, c'est un dispositif d'emploi. L'objectif, c'est d'accompagner ces jeunes sur une période de 1 an, hein, de 12 mois, en l'occurrence que la mission locale les accompagne pendant une période de 12 mois, à aller au contact de l'entreprise le plus possible. Après une petite période d'évaluation et d'accueil par la mission locale, l'objectif de la mission locale, c'est le plus vite possible de permettre à ces jeunes d'être en immersion en entreprise pour des périodes de stage qui peuvent se répéter, mais ça peut être des stages, ça peut être aussi des emplois, CDD, des emplois courts, ça peut être aussi de l'intérim, c'est toute forme de mise à l'emploi que la mission locale doit essayer de mettre en œuvre pour ces jeunes qui sont les plus éloignés, de manière à les aider à se faire une expérience de l'entreprise, à se faire une expérience du travail et à pouvoir s'y inscrire le plus longtemps possible. Alors en tout cas, au moins sur la période de 12 mois sur laquelle ils s'engagent, parce que si ce n'est pas une allocation, c'est un dispositif qui repose sur l'engagement du jeune, comme le service civique. À la différence près que lorsque le jeune s'engage, il ne s'engage pas pour un service qui va apporter un bénéfice à la collectivité, il s'engage lui dans un dispositif où il doit accepter l'aide qui va lui être proposée par la mission locale et notamment accepter toutes les propositions d'emploi qui lui seront faites, même si ce n'est pas a priori ce qu'il pensait, ce qu'il espérait, ce qu'il aurait voulu, hein, mais c'est pour l'aider justement à entrer dans l'entreprise sur cette période de 1 an. En échange de cet engagement du jeune la mission locale lui offre ce service, mais il obtient lui une indemnisation qui lui permet d'avoir un premier revenu, c'est pas un salaire au sens strict du terme, hein, mais un premier revenu qui est autour de 400-500 euros à peu près, hein, selon les situations. Donc là aussi, l'idée, c'est... Enfin, là aussi, non, parce que c'est justement la différence par rapport au service civique, hein, c'est qu'on va chercher des jeunes qui sont loin de l'emploi parce qu'ils n'y sont pas prêts, peut-être psychologiquement, mais en tout cas aussi par le peu d'expérience qu'ils ont, pour vraiment leur mettre le pied à l'étrier et qu'on les accompagne de manière suivie, de manière rapprochée, qu'on les pousse à aller en entreprise une fois, deux fois, dix fois sur cette période de 1 an, en échange d'une indemnisation, qui n'empêche pas d'ailleurs... S'ils vont sur un contrat de travail, qu'ils aient un complément financier qui soit à la hauteur du salaire. C'est pas une indemnisation en tout et pour tout qui permettrait à l'employeur de prendre des jeunes dans le cadre de la mission de la garantie jeune et qu'ils ne payeraient que le niveau de la garantie, que ça soit clair. C'est une garantie minimale, notamment sur les périodes de stage, sur les périodes où il y a de l'accompagnement par la mission locale sans qu'il y ait de l'emploi, qui n'empêche pas, s'il y a un emploi rémunéré qui est trouvé, qu'il y a un complément de rémunération, hein, mais qui permet en tout cas sur une période de 1 an d'apporter cet accompagnement aux jeunes de manière à l'inscrire réellement dans l'emploi. On a constaté, hein, par expérience qu'un certain nombre de jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi ont plus de mal à y venir et que plus le temps passe, plus c'est difficile pour eux d'y aller. Et donc l'idée, c'est de les tremper dans le bain de l'entreprise le plus vite possible et le plus longtemps possible, de manière à ce qu'ils s'adaptent aussi à ce qu'une entreprise attend d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne, le marché de l'emploi.
Alors la différence du service civique, là, ça s'adresse justement plus à des entreprises, des petites ou moyennes entreprises et non pas des collectivités et des associations.
Alors en effet, c'est un dispositif qui va nécessiter que la mission locale renforce encore le réseau qu'elle a avec les entreprises, puisqu'il s'agit de trouver des dizaines d'entrepreneurs, des dizaines d'entreprises qui soient prêtes à jouer ce jeu-là, c'est-à-dire jouer le jeu d'accueillir des jeunes dont on sait, par définition et par hypothèse, qu'ils sont en difficulté d'insertion professionnelle, donc ils sont un peu éloignés de l'emploi. Ça veut dire que lorsque les entreprises accepteront de faire venir ces jeunes, elles savent, dès qu'elles acceptent le principe, que pour un certain nombre de ces jeunes-là, ils ne trouveront pas leur place dans l'entreprise. Donc les entreprises ne vont pas les faire venir sur des emplois vacants pour une embauche. Dans ce cas-là, il faut aller vers Pôle emploi. C'est là que ça marche. C'est là que ça fonctionne. Ça s'adresse plus à des entreprises citoyennes qui ont envie d'aider et d'accompagner des jeunes qui sont en difficulté à aller vers l'emploi. En sachant que dans les emplois... dans cet accompagnement vers l'emploi, il y a des stages, il peut y avoir du contrat de travail, il y a différentes formes d'emploi qui seront données. Hein. Ce ne sera pas que de l'emploi rémunéré, ce ne sera pas que du stage, c'est un mélange. L'idée, encore une fois, étant de confronter le plus possible le jeune au travail. Mais pour ça, il faut des entrepreneurs motivés, il faut des entrepreneurs citoyens qui aient envie de s'engager au bénéfice de la jeunesse.
Il faudrait qu'il y ait de la formation aussi. Est-ce que sur Nord-Isère, on n'aura aucune difficulté ou moins de difficultés peut-être que sur d'autres secteurs à justement mettre en place ce genre de dispositif ?
Alors on n'aura pas de difficulté au sens où on a un vivier de jeunes qui sont éloignés de l'emploi qui est malheureusement suffisant pour qu'on ait de quoi utiliser toutes les ressources qui vont être apportées à la mission locale, sachant que comme c'est un dispositif de l'État, c'est l'État qui va financer et verser à la mission locale les financements pour lui permettre de réaliser cet engagement, de mettre en place ce nouveau dispositif, avec pour l'instant un nombre de places définies. Ça ne sera pas sans limite, c'est un dispositif avec un public jeune qui est ciblé, à la fois ni emploi, ni éducation, ni formation, mais aussi des jeunes qui ont des prérequis suffisants et qui ont envie de s'engager. Et donc tous ceux qui prétendront au dispositif n'y auront pas accès. Il y a un nombre de places limité. L'objectif, c'est aussi de choisir les gens qui sont motivés et qui vont vraiment s'engager. Ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir, on les aidera d'autant plus qu'ils ont envie de s'en sortir.
Il y aura un contrat signé entre le jeune et la mission locale?
Bien sûr, il y a un engagement réciproque. Hein. La mission locale apporte un accompagnement et une rémunération. En échange, le jeune accepte le dispositif et s'engage sur la durée qui est prévue, donc jusqu'à un an, à accepter toutes les propositions d'emploi qui lui seront faites, de stage, d'emploi, qui lui seront faites sur la période, et puis à participer aux périodes qui ne sont pas des périodes d'emploi, mais qui sont des périodes d'accompagnement par la mission locale, de réflexion, d'aide pour ce jeune à aller vers l'entreprise.
Avant de conclure cette émission, une pause musicale choisie par Ludovic, le titre Houdini, le groupe Foster de People, et c'est sur Couleur FM dans votre magazine Quartier Libre. We'll be right back. au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion? Nous sommes effectivement dans une période de crise où les jeunes sont peut-être les premiers touchés, avec les femmes et les seniors. Est-ce que toutes ces mesures aideront peut-être tous ces jeunes à s'en sortir d'une manière ou d'une autre? Et c'est aussi notre mission à nous, qui sommes en emploi, de les aider à trouver leur voie et à les sortir un petit peu de ces difficultés, que ce soit par divers emplois aidés ou autres, même si ce n'est pas pour certains des fois la solution, mais c'est aussi leur mettre le pied à l'étrier peut-être.
Je crois que c'est ça, parce que le discours du gouvernement, il est celui-là. Il est d'abord de multiplier les dispositifs, parce que un jeune n'est pas égal à un autre jeune. Chaque jeune a son identité, chaque jeune a sa situation personnelle, chaque jeune a ses difficultés, ses compétences, ses richesses, ses qualités, ses défauts, comme tout le monde. Hein. Et l'idée, c'est, en multipliant le nombre de dispositifs, d'avoir accès au plus grand nombre de jeunes possible. Ce ne sont en effet pas des dispositifs dont on a parlé, hein, service civique, garantie jeune, c'est pas de l'emploi au sens strict du terme. C'est d'un côté du service qui est valorisé par la société, c'est de l'autre un accompagnement spécifique pour des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi, donc c'est deux choses qui sont différentes, hein, mais qui ont comme intérêt l'un et l'autre. Pour le jeune concerné, de lui apporter des premières expériences professionnelles, qu'il va pouvoir ensuite valoriser dans un parcours professionnel, de lui apporter une rémunération, ce qui est quand même pas neutre, hein, c'est mieux entre 16 et 25 d'entrer dans ce type de dispositif et d'y participer vraiment avec la rémunération que ça apporte, que d'attendre un RSA à 25 ans. Je caricature un petit peu, mais l'objectif, c'est aussi d'éviter que les jeunes attendent le RSA à 25 ans. C'est sûr que c'est encore mieux de pouvoir trouver un emploi normalement rémunéré et dans des conditions satisfaisantes. On constate que, malheureusement, c'est pas le cas pour un certain nombre de jeunes, parce que le marché de l'emploi est ce qu'il est, mais aussi parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises, certains chefs d'entreprise s'étonnent que certains jeunes n'aient pas de bagages intellectuels et psychologiques suffisants pour faire face à l'emploi. Se lever le matin, dire bonjour quand on arrive, rester tout le temps de travail prévu, etc., etc., c'est des choses que certains jeunes n'ont pas. Et ces dispositifs, ça doit les aider à acquérir ces compétences. Ça semble être évident comme compétence, mais certains ne les ont encore pas. Et c'est en les aidant à les acquérir qu'on les prépare ensuite à accéder à un marché de l'emploi qui est un marché qui est dur aujourd'hui. Ça a à mon avis un autre intérêt, hein, c'est de permettre de valoriser des jeunes qui ont des mains en or, qui ont des idées en or, qui ont une énergie débordante, mais qui n'ont pas réussi à valoriser dans notre système scolaire classique. Le système scolaire classique, qui a beaucoup de qualités, hein, ne permet pas pour autant à tous de trouver sa place. Et dans ceux qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire classique, il y en a des dizaines qui ont à apporter des choses à la société. Et ceux-là, on ne peut pas se permettre de les laisser sur le bord de la route. Il faut qu'ils trouvent leur place. Ils n'ont pas trouvé leur place dans la formation, dans le système scolaire classique. Et ben, c'est pas grave. On va ouvrir de nouvelles portes pour qu'ils trouvent leur place d'une autre manière. Et là, je crois, service civique, garantie jeune et puis d'autres dispositifs qui existent, hein, ce sont des moyens de permettre à ceux qui n'ont pas réussi jusque-là à trouver leur place de la trouver. Par ailleurs, nous le savons tous, le marché du travail est en train de changer considérablement. Il a profondément muté depuis des années. Nous ne sommes plus dans des marchés de l'emploi qui permettent d'imaginer ou d'espérer, selon quel côté on se place, avoir un premier emploi à 18 ans et y rester jusqu'à sa retraite. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On peut le regretter, on peut dire que c'est dommage. Dans nos parents, dans nos grands-parents, il y en a qui ont eu pendant 30, 40 ans le même emploi. Bon, moi, je change d'emploi tous les 2 ou 3 ans, donc j'ai du mal à imaginer passer 30 ans à la même place. Ça, c'est personnel, mais le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'emploi évolutif. C'est 6 mois sur une formation, c'est 12 mois sur un emploi particulier, et c'est changé. Et cette capacité à s'adapter, cette capacité à changer, je crois qu'il faut la valoriser, parce que c'est une des clés de réussite de l'insertion des jeunes aujourd'hui. Si les jeunes aujourd'hui pensent un premier emploi qui sera un emploi définitif, si les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas dans leur tête prêts à s'adapter à une forme d'emploi, à 2 formes d'emploi, à 3 formes d'emploi, je crains que pour un certain nombre, ils restent sur le côté. Je regretterais. On peut estimer que ce système-là n'est pas satisfaisant. Pour l'instant, c'est la réalité. Moi, je dis juste aux jeunes, adaptez-vous un peu à la réalité, parce qu'elle ne se transformera pas forcément. Et si vous n'arrivez pas à vous y adapter, un minimum, vous risquez d'être laissé sur le côté. Ces dispositifs, c'est aussi fait pour les aider à s'adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui.
Et puis maintenant, de toute façon, ça sera la formation tout au long de la vie. C'est aussi dans les nouveaux dispositifs.
Absolument.
Qui sont en place depuis 2015.
Absolument.
Est-ce que vous souhaitez réagir avant qu'on clôt cet entretien?
J'avais une dernière question à poser à monsieur le sous-préfet. Vous avez parlé tout à l'heure du service militaire. J'ai vu en naviguant sur Internet beaucoup d'avis très négatifs à l'encontre du service civique, que beaucoup de gens, peut-être à tort, peut-être qu'ils ont leur raison, considèrent que le service civique c'est un peu de la main d'œuvre bon marché et que rien ne vaut le service militaire obligatoire pour éduquer les jeunes, notamment les jeunes qui sont dans la rue et qui font n'importe quoi. Bon, je ne partage pas spécialement cet avis, mais j'aimerais savoir si vous avez un avis sur la question.
Moi, je vous dirais deux choses. Le service militaire a été supprimé il y a quelques années pour des raisons qui sont ce qu'elles sont. À l'époque, il semble, d'après ce dont je me souviens en tout cas, que la logique militaire ne voyait pas plus d'intérêt particulier à avoir des appelés du contingent et que le coût social du service militaire était très important, alors qu'il ne rendait plus à l'armée le service qu'il lui rendait auparavant, et que du coup c'était devenu aussi, par voie de conséquence encore plus, une obligation insupportable pour ceux qui devaient le faire, qui n'y voyaient plus beaucoup d'intérêt. Il est certain qu'il avait un intérêt, qui était de mettre les jeunes Français d'une même classe d'âge dans une vie collective commune sur une période, sur la période du service militaire, et que ça c'était quand même sans doute un espèce de ciment de notre société. Le service civique, qu'est-ce que c'est ? C'est s'appuyer sur la volonté de jeunes de servir la collectivité, leur permettre d'engager ce service. Et du coup, passer par là de ce qu'on appelle le vivre ensemble à l'agir ensemble. C'est ce que vous avez dit tous les trois dans votre témoignage. Une des choses que ça vous a apporté, le service civique, c'est d'avoir pu rendre service aux autres, d'avoir pu aider les autres, d'avoir pu accompagner les autres. Donc ça, moi, il me semble que c'est aussi une forme de ciment social. Vous avez travaillé au bénéfice de vos concitoyens, vos concitoyens vous ont vu faire ce travail-là, ils en ont tiré un profit, et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement utile pour notre collectivité. Alors voilà, moi, je ne ferai pas de comparaison entre les deux en dehors de celle-ci. C'est un moyen, pour des jeunes qui le souhaitent, de servir leur collectivité. Et ça, en cela, c'est une richesse, et en cela, c'est un terreau sur lequel, je crois, d'autres choses peuvent pousser, peuvent grandir.
Et d'autant plus pacifiste.
Et moi, je suis attendue de poser la question à tous les trois. Est-ce que vous seriez pour le retour à un service national, type comme il y avait par le passé ? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de jeunes qui étaient pour ce retour, mais peut-être pas un an, qui étaient pour ce tour du 6 mois.
Je serais d'avis d'un service civique obligatoire, puisque ça apporte énormément de choses, et c'est vrai que ça met dans une optique d'entraide, quoi. C'est tout.
Mais moi, je serais pas d'accord. Hein.
Moi, je serais d'accord. C'est vrai que les jeunes, généralement, on sait pas trop ce qu'on a envie de faire. Assez tôt même, donc ouais, moi je serais d'accord.
Et qu'est-ce qui vous gênerait ?
Moi, ce qui me gênerait, c'est de partir et de me retrouver avec plein de monde, donc je pense que c'est ça ce qui allait me gêner. Voilà, partir loin de ma famille.
Eh bien, je vous remercie, monsieur Thomas Michaud, d'avoir répondu à nos questions et à nos questions de nos jeunes. Et puis, on espère que tous ces dispositifs seront là, effectivement, pour aider les jeunes en grande difficulté à trouver peut-être leur voie, comme vous le dites. C'est un petit peu compliqué en ce moment pour les 16-25 ans qui sont en décrochage scolaire. Alors peut-être là aussi, il y aurait peut-être des réformes à avoir au niveau scolaire. Pourquoi tous ces jeunes, on les perd à un moment donné et qu'on a du mal à les retrouver. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. On termine cette émission en musique et c'est Raizani qui a choisi Rayana, le titre « What Now ?»
cause I spend